Radio Patrimoine et Capital présente le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission présentée par Quentin Balourand et Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Quentin.
Salut Cédric.
Voilà, Quentin Balourand qui va m'accompagner chaque mois pour ce grand rendez-vous de l'épargne. Un format que l'on va poursuivre mois après mois, un dossier que l'on va suivre. Et aujourd'hui, on parlera des grandes tendances, de la façon dont il faut envisager finalement 2025 pour votre épargne, vos placement, votre patrimoine. Et puis, on répondra aussi à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire questions@capital.fr et nos experts se mobilisent pour apporter les réponses les plus précises. Et puis, chaque mois, on aura aussi, et c'est ce qu'on va faire dans un instant ensemble, Quentin, un petit journal, finalement, de l'épargne pour savoir un petit peu tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer dans ce monde de l'épargne. On est ensemble pour une petite heure. C'est le grand rendez-vous de l'épargne.
Le journal de l'épargne.
Alors Quentin, ce journal et notamment l'épargne réglementée, changement de taux annoncé pour le livret A, pour le livret d'épargne populaire, etc. Ça va baisser là, dans les heures qui viennent, hein, 1er février, c'est le coup près.
C'est ça, une actualité oui, donc brûlante et puis qui concerne quand même pas moins de 57 millions de Français pour les titulaires d'un livret A. Certains avaient peut-être d'ailleurs oublié que ce taux était amené à changer deux fois par an parce qu'il était gelé, on s'en souvient, un taux de 3% depuis un an et demi, hein, depuis le 1er août 2023. Et donc, comme tu l'as dit, pardon, ce taux baissera dès demain, le 1er février, en passant de 3% à 2,4% pour le livret A. On espérait un petit peu mieux, mais finalement, il n'y aura pas de coup de pouce pour le livret A, ni pour le LDDS, son petit frère jumeau. Et puis, en revanche, un nouveau soutien pour le livret d'épargne populaire, le LEP, qui est réservé aux épargnants à petits revenus, qui lui passera de 5 à 4% alors qu'il aurait pu tomber en fonction du taux du livret A à un taux de 2,9. Donc un joli soutien.
Un petit soutien pas moche sur ce fameux LEP. Une fois qu'on quitte ces livrets, Quentin, on dit aussi un petit mot de l'année fantastique du Bitcoin et de l'or, hein, lors de la remise des bulletins pour les placements, les meilleures performances 2024. Et sur l'ensemble de l'année dernière, eh bien, il y a ces deux actifs, Bitcoin et or, qui finalement ont cartonné, hein, Quentin.
Oui, bah, le mois de janvier, c'est un peu le moment aussi où on fait les comptes sur les placements de l'année passée. On voit un peu ceux qui ont le mieux performé sur l'ensemble de l'année écoulée. Et en 2024, effectivement, il y a deux actifs qui font mieux que les plus grosses actions mondiales, mieux que le S&P 500, mieux que le Nasdaq, mieux que les actions européennes. Ce sont donc le Bitcoin et l'or. Alors, le plus précieux des métaux, lui, a gagné 35% donc de valeur entre janvier et décembre, avec une once d'or, donc ça fait environ 28 grammes, qui est passé de 1 800 à 2 500 euros. Et de son côté, la reine des crypto-monnaies finit l'année à plus 120%, que je ne dise pas de bêtises, en passant de 42 000 à 92 000 dollars. Mais après avoir franchi la barre des 100 000 dollars, on s'en souvient, fin décembre.
Fait des étincelles au moment où on avait vu ce chiffre mythique s'afficher sur les écrans des fans de crypto. Comment on explique, Quentin, toutes ces performances?
Alors, pour des raisons différentes, on en reparlera peut-être avec nos invités, mais pour l'or, on le sait, hein, c'est souvent la valeur qu'on qualifie de refuge par excellence. Et l'or semble avoir profité, comme à chacun de ses pics historiques d'ailleurs, hein, d'un contexte géopolitique et économique très incertain en 2024. Et puis, il y a une hausse constante aussi de la demande d'or au niveau mondial, hein, qu'il s'agisse de la demande de l'industrie, de banques centrales aussi qui veulent sortir du dollar, et puis une demande croissance de la part de particuliers aussi, hein, notamment dans les pays émergents. Et le Bitcoin, de son côté, il a connu une année aussi favorable qui l'a poussé vers les sommets en raison de différents événements. On a eu l'arrivée il y a à peu près un an des premiers ETF Bitcoin, qui ont attiré beaucoup de flux. On a eu le fameux halving aussi en avril, hein, c'est-à-dire cette réduction programmée de l'émission de Bitcoin qui augmente sa rareté. Et puis, en fin d'année, bien sûr, l'élection de Donald Trump qui a catapulté le Bitcoin et lui a permis de finir l'année en fanfare.
Alors, pour ce qui est de l'actualité, finalement, des placements, de l'épargne, du patrimoine, il y a aussi un moment très particulier. En début d'année, à chaque fois, c'est la saison, le moment où on annonce les rendements servis sur les assurances-vie. On a déjà des premières tendances, Quentin ?
Oui, on commence à avoir un bon aperçu déjà des taux distribués en 2024, même si on le sait, les meilleurs élèves lèvent la main en premier, donc ça a commencé dès le 1er janvier avec de très bons taux, notamment du côté des mutuelles. Je cite Ampli Mutuel 3,75%, Garance 3,50%, La France Mutualiste 3,60%. Et puis il y a eu l'annonce tonitruante du groupe Corum avec un rendement impressionnant de 4,65% sur son tout nouveau fonds euro Corum Life. Et puis on a eu ensuite par la suite des taux un peu plus décevants, par exemple du côté de l'affaire, l'annonce de son taux qui est toujours un moment attendu sur le secteur avec un taux de 2,51%. Tout juste au-dessus de la moyenne qu'on attend pour le secteur cette année.
Et du coup, tu as fait tes petits calculs, ça donne quoi en moyenne pour 2024 ?
Alors, c'est pas moi qui les ai faits, mais oui, on attend un léger repli par rapport à 2023, autour de 2,50, 2,5, donc selon le cabinet Facts and Figures. Ce sera donc un petit peu moins que les 2,60 de l'année précédente, donc de 2023, mais on attend encore d'avoir l'intégralité des communications des assureurs pour se prononcer. Et d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez retrouver les taux de tous les contrats du marché sur le site de Capital, grâce aux données qu'on compile en partenariat avec le site Good Value for Money. Au dernier décompte, on était à peu près à 300 taux, 300 contrats recensés, en sachant qu'on avait eu 1000 contrats l'année dernière. Donc, vous trouverez un bon panorama des contrats en assurance vie et de leurs taux sur le site de Capital aussi.
À suivre donc, bien évidemment, ces annonces toujours très importantes en début d'année pour savoir à quelle sauce on a été mangé. Voilà pour ce journal de l'épargne. Une petite pause et on retrouve nos invités pour le dossier du mois. En fait, on va vous guider dans vos placements 2025.
Le dossier du mois.
Et on accueille deux spécialistes pour vous guider finalement, pour savoir où placer votre argent pour 2025. Amélie Ziegelmeyer, bonjour Amélie.
Bonjour.
Vous êtes directrice régionale gestion privée de La Place. Et Alexandre Bardez, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Responsable de l'analyse marché chez IG. On va avoir besoin de toutes vos lumières pour guider finalement nos auditeurs, les lecteurs de Capital aussi, Quentin Balorant, pour explorer le maximum de pistes, finalement les grandes tendances, de voir aussi les placements phares, d'imaginer comment on peut diversifier. Et puis, on essaiera aussi d'être très pratique, c'est important pour vous, en vous donnant un maximum de conseils. Et on commence avec finalement les grandes tendances, Quentin.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit dans le journal, le début d'année est marqué par la baisse sur les livrets réglementés. C'est également le cas pour d'autres solutions d'épargne très sécurisées en raison de la baisse de l'inflation. Donc la question un peu de ce début d'année, c'est est-ce qu'il faudra prendre forcément plus de risques cette année pour espérer un peu de performance, Alexandre, peut-être d'abord ?
Alors, c'est vrai que prendre plus de risques et sur quoi, effectivement, prendre des risques, je veux dire, quand on parle des marchés, ce qui est la partie qu'on construit précisément, c'est vrai qu'on a des tendances qui ont été extrêmement fortes sur les marchés américains toute l'année dernière. On a des marchés européens, dont les actions européennes, qui ont sous-performé de 20% par rapport aux marchés américains, ce qui n'était jamais observé depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, l'idée qu'effectivement, les actions européennes, donc celles du CAC 40, celles de nos voisins européens, le DAX, le MIB en Italie, puissent avoir des mois, des trimestres, des années meilleures, ça c'est très très probable. En revanche, la question se pose beaucoup plus sur la partie américaine dans les trimestres qui arrivent, parce que on a une économie américaine qui a été vraiment très bien portante depuis 4 ans sous le mandat Biden, et puis finalement Donald Trump arrive et laisse planer l'idée qu'il faut encore stimuler cette économie qui était très fortement stimulée, avec beaucoup de déficits ou autre. Et puis les marchés américains sont bien plus chers que les marchés européens. Pour donner un ordre d'idée, les marchés européens, on a des ratios comme ça qui mesurent la cherté. On les paie à peu près 14, 15 fois les bénéfices. Les marchés américains, on les paie plus de 25 fois les bénéfices. Donc ils sont déjà très chers, ces marchés américains, mais ils n'intègrent peut-être pas l'idée que les taux américains, que la Fed finalement baissera peut-être moins vite les taux. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de transition comme ça en termes de perception de la part des investisseurs sur notre serait plus important pour l'Europe dans les trimestres à venir que sur les États-Unis.
Amélie, il y a les marchés, mais il n'y a pas que les marchés. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on se dit là, c'est qu'il va falloir prendre plus de risques, finalement le placement un peu plan-plan, sans trop d'étincelles, à 4, 5 et quelques pourcents, ça n'existe plus. Et 2025, faut un peu avoir le couteau entre les dents.
Alors, les placements à 5% sans risque liquide immédiatement, effectivement, on a l'impression que c'est la fin, puisque la BCE a commencé à baisser ses taux l'année dernière, elle va continuer à le faire cette année. Après, j'ai envie de vous dire, tout dépend, en fait, le souhait de performance de vos lecteurs et de vos auditeurs. Parce qu'aujourd'hui, sur un placement sans risque, on peut espérer, selon le sous-jacent, entre 2 et 4,5 de performance. Donc, pour certaines personnes, c'est suffisant, ça couvre l'inflation. Après, c'est sûr que si vous voulez chercher une rentabilité supérieure, là, ça nécessite soit de prendre du risque, donc de s'exposer au marché financier, soit d'avoir un temps d'investissement plus long. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des produits qui existent, qui sont à capital garanti. Je pense notamment aux produits structurés sur les taux et qui offrent du 5,50 par an. Mais c'est en contrepartie d'un temps plus long d'investissement. Donc après, il faut que chacun trouve chaussure à son pied en fonction de sa sensibilité au risque et puis aussi de son horizon d'investissement et son souhait de performance.
Alors, bon, c'est vrai que Alexandre, on a parlé un petit peu, il y a des questions un petit peu politiques. Alors, on a parlé de Donald Trump, mais en France, on peut pas dire qu'on est complètement à l'abri non plus des soubresauts politiques. C'est à prendre en compte, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que ça va avoir un impact, selon vous, sur les investisseurs. Il y a de la fiscalité, on en reparlera peut-être en termes de conseils, de voir... Mais voilà, les investisseurs, ils doivent se dire, attention, 2025, mon épargne, elle est politique aussi. Amélie ?
Alors, c'est vrai que l'année dernière, on a vu qu'il y a eu un attentisme des clients suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, où effectivement, plus personne n'avait envie d'investir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti de mon expérience. Mais après, quand on voit la couleur et la composition de l'Assemblée nationale, on a l'impression que finalement, il ne va pas se passer grand-chose. La preuve, hein, là, on est à la veille du mois de février et on n'a toujours pas de loi de finances là actée. Mais après, des périodes d'incertitude, de toute façon, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc après, le fait d'être dans un contexte incertain, c'est aussi la meilleure excuse pour ne rien faire, pour ne pas agir. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à encourager les gens à prendre des décisions. Si vraiment, voilà, ils veulent pas prendre de risques, bon, ben, on a parlé des placements sécuritaires qui peuvent être une solution. Mais en tout cas, à se poser les bonnes questions sur son patrimoine, puisque de toute façon, une stratégie, c'est sur du long terme. Donc autant, voilà, revoir ses objectifs et puis en fonction, choisir les investissements qui vont être adaptés, par exemple à la préparation de sa retraite, à la création de revenus complémentaires, à l'optimisation de la transmission à ses enfants, mais en tout cas, voilà, de revenir sur la base de la gestion de patrimoine et puis de structurer les choses, parce que ne rien faire, finalement, c'est presque ce qu'il y a de pire.
La politique, Alexandre.
Sachant que le risque politique, les marchés ont déjà pas mal intégré. Effectivement, ça a commencé vraiment à bouger l'année dernière. Si on se souvient bien, 2024, vous aviez toutes les actions européennes qui montaient au même rythme, le CAC, le DAX ou autre. Et c'est vraiment à partir de la dissolution que les choses ont commencé à bouger, qu'on a vu les actions françaises sous-performer très nettement par rapport aux actions allemandes, italiennes ou autres. Donc une grosse partie du risque est déjà dans les prix. Ça s'est vu aussi sur les obligations au niveau de la zone euro. Hein, le 10 ans français qui s'est écarté plus fortement du 10 ans allemand, ce qui a été une zone de vigilance hein, sur les marchés, que les marchés déjà intégrées. Donc c'est vrai que je dirais qu'on peut aller vers du mieux sur l'aspect politique parce qu'effectivement il n'y a pas de censure pour l'instant sur le nouveau gouvernement. Il y a aussi en Allemagne, pas ça devient le sujet allemand. On sait que l'Allemagne ne connaît pas de croissance depuis maintenant 2 ans. Le FMI prévoit que ça pourrait être le cas pour une troisième année supplémentaire. Donc l'idée c'est qu'après les législatives qui auront lieu en Allemagne à la fin du mois de février, les choses seront un peu plus lisibles sur la première puissance économique européenne et probablement que les questions d'endettement vont être un petit peu assouplies. C'est-à-dire que l'Allemagne a bien compris que 3 ans sans croissance c'est absolument inacceptable. Même la population allemande, les électeurs allemands vont trouver ça inacceptable et l'Europe a besoin d'une Allemagne un peu plus vigoureuse dans ses investissements et dans ses choix. Donc ça c'est plutôt pas mal pour la zone euro. C'est-à-dire que si la France se stabilise d'un point de vue politique, l'Allemagne aussi, derrière vous l'avez dit, la BCE va continuer à baisser les taux. Alors c'est sûr que pour les produits de rendement ça va diminuer un petit peu tout ça, mais par contre, ça va être plutôt une partie stimulante pour les actions ou autres. Donc, je pense que les 12 à 24 mois qui arrivent pour la partie européenne, pour un investisseur qui n'est pas trop investi sur la partie européenne, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de croissance, c'est plutôt se dire que cette absence ou cette faiblesse de croissance va obliger les autorités européennes à réagir pour faire face en plus à l'administration américaine. Donc, c'est plutôt à percevoir de manière positive.
Quentin ?
Oui, bah, la baisse des taux, ça a aussi un impact plus direct pour les épargnants, c'est notamment sur le taux de leur crédit immobilier. Alors, je suis obligé de passer par là parce que c'est quand même un placement phare pour de nombreux épargnants, la pierre en France. On en est où, Amélie, en ce moment, sur les taux des crédits à peu près? On espérait que ça baisse davantage peut-être cette année. Est-ce que...
Là, effectivement, suite à la baisse des taux de la BCE, il va y avoir un impact sur les taux d'emprunt. Ça a déjà commencé un petit peu à diminuer. Ça va s'accélérer sur 2025. Et à chaque fois qu'il y a une baisse d'un point des taux de crédit, c'est 10% de capacité d'endettement que gagnent les ménages. Donc pour les investisseurs, c'est plutôt extrêmement positif, du coup, cette baisse des taux. En plus, c'est vrai que l'immobilier, c'est un placement phare, hein. Ça fait partie d'un pilier à avoir dans son patrimoine, puisque ça répond à des objectifs bien précis, hein, de création de revenus complémentaires, de diversification, on a des actifs tangibles. Et c'est vrai que l'immobilier a été un peu malmené, hein, ces dernières années, justement suite à la hausse brutale, hein, qui a entraîné des taux, qui a entraîné la baisse du marché immobilier. On a perdu moins 10 hein, sur le résidentiel, moins 20 sur l'immobilier de bureau. Il y a eu un gel total des transactions puisque certains vendeurs n'avaient pas l'urgence de céder leurs actifs. Donc on a eu moins 60 sur l'immobilier d'entreprise quand même en termes de transactions, hein, moins 36 sur le résidentiel. On a 2000 agences immobilières qui ont fermé, donc c'est quand même... environ trois par jour, hein, sur 2 ans. Hein. Donc le point positif, si, par rapport à tout ça, c'est que là, suite justement à la baisse des taux, on va pouvoir certainement profiter d'une hausse du marché immobilier. Hein. Le Conseil supérieur du notariat anticipe une hausse de 2% en 2025, quasiment idem en 2026. Donc pour les investisseurs, en tout cas, qui auraient envie de retourner sur la pierre, c'est plutôt une très bonne idée et un bon moment pour le faire.
Donc les taux, ouais, c'est ce qui drive ce monde immobilier et on va donc garder, Alexandre, les yeux rivés sur les banques centrales, sur les choix que vont faire.
Oui, alors c'est vrai que la logique serait que vu le niveau de croissance qu'on a en Europe, une inflation aussi qui est quand même pas mal ralentie, c'est que la BCE poursuive ce cycle. Il y a quand même le seul bémol qu'on pourra avoir cette année, c'est le côté américain. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple en cette fin d'année, depuis décembre, il y a un gros rebond sur les taux américains parce que le côté un peu réflationniste de Trump, les anticipations d'une économie qui reste forte et d'une inflation qui a fait moins de progrès aux États-Unis, on a vu que ça a quand même eu des conséquences sur les taux en Europe. C'est-à-dire qu'on avait les taux européens qui baissaient depuis que la BCE avait commencé à baisser ses taux en juin, tout un cycle de détente des taux souverains qui s'opérait donc, hein, qui bénéficiait au crédit immobilier. Et depuis le début du mois de décembre, on a eu un rebond assez marqué sur les taux européens et qui ne vient pas de l'actualité européenne, en fait, qui ne vient pas d'une inflation européenne ou de sujets peut-être un petit peu politiques quand même, mais c'est surtout beaucoup d'influence des taux américains. Donc je dirais que le risque que l'on pourra avoir à un moment donné sur l'absence de progrès à la baisse sur les taux en Europe, c'est que ça pourrait venir de ce programme. Et on le voit bien, d'ailleurs, Trump qui annonce 500 milliards pour l'intelligence artificielle ou autres, les gros comme BlackRock ou autres se disent que s'il libère vraiment les capitaux privés, Donald Trump, que ça pourrait en fait empêcher l'inflation américaine de faire plus de progrès et donc les taux américains ne se détendraient pas. Et on voit que ça peut avoir des influences outre-Atlantique en Europe. Ce serait le petit risque pour cette année.
Bon, ça c'est effectivement l'immobilier qui est un des placements phares des Français. On dit qu'ils ont un parpaing dans le ventre, c'est pas complètement faux. Il y a aussi d'autres placements. Alors on a dit un petit mot en entamant nos débats autour de la notion de risque, etc., de savoir s'il fallait être plus offensif. Tout ce qui est placement sans risque, je pense au livret. On a évoqué le livret A, etc., qui voit leur taux baisser, etc. Ça veut dire que On laisse tomber un peu tout ça ou on se dit il faut encore en faire sa base de gestion d'épargne, enfin comment on considère toute cette kyrielle de livrets et autres qui ont pas un intérêt fabuleux.
Si on n'est pas prêt à subir une baisse de ses capitaux, il vaut mieux effectivement être majoritairement investi en sécuritaire, voire exclusivement. Après, si on veut aller chercher de la performance, non. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un peu de liquidité, puisque c'est ce qui vous permettre de faire face en cas d'imprévu ou justement de saisir des opportunités. Mais 10 ou 20%, c'est suffisant. Aujourd'hui, vu les niveaux de taux, non, il vaut plutôt aller sur d'autres classes d'actifs. On a parlé de l'immobilier. Les fonds obligataires, aujourd'hui, c'est intéressant, puisque avec la baisse des taux là qui s'est déjà activée, on est encore sur des taux relativement élevés, mais ça plus pour très longtemps. Donc là, ça vous permet d'aller notamment sur les fonds obligataires datés, de cristalliser des taux intéressants avec des maturités voilà qui sont... moyen terme, on va dire.
Donc, il faut vraiment regarder avec parcimonie, on va dire, les livrets et s'encourager à aller voir autre chose, quoi.
Enfin, oui. En tout cas, si vous avez envie d'avoir de la performance, oui, c'est ce qu'il faudra faire.
Il faut tout, prendre du risque.
Tout dépend toujours de votre espérance de gain et de la sensibilité par rapport à la variation des capitaux.
Oui, prendre du risque, mais où on a un peu évoqué avec Alexandre en début d'émission. Deux questions. Est-ce que, on l'a dit, là, malgré la baisse des taux, notamment les taux obligataires restent assez hauts. Donc, est-ce que ça peut être une bonne option d'aller sur des obligations d'État ou de grande entreprise?
Oui.
Et puis, sur les marchés actions, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aussi où, dans quelle zone géographique ou quel secteur il vaut mieux s'aventurer?
Oui, les obligations, c'est bien en mettre. Alors, même des obligations américaines, hein, si on veut un portefeuille international, quand vous avez des rendements à 5% sur du 10 ans américain, et même sur des taux européens, des signatures qui restent très bonnes avec des taux à plus de 3% sur 10 ans, ça vaut quand même le coup d'en mettre parce que la probabilité que les taux repartent fortement, le risque est plutôt de rester un peu collé sur la même zone pendant quelques temps, le temps que, voilà, tout ceci se tasse un petit peu en termes d'inflation encore, parce qu'il y a toujours une inflation à 2,8 en zone euro. On a tendance à penser que l'inflation a complètement disparu, mais il y a toujours une inflation à 2,8. Donc, avoir des taux souverains à 10 ans qui restent à 3, parfois un peu plus, c'est quand même une probabilité pendant quelques mois encore. Mais c'est vrai que les actions européennes sont vraiment assez peu chères. Et il y a deux effets positifs qu'on pourrait voir cette année. Le premier, je pense qu'on n'attend pas forcément, c'est du côté de la Chine. C'est-à-dire qu'on a, et on a vu d'ailleurs récemment les actions françaises rebondir fortement dans le luxe ou autre, parce que des groupes pas français, Richemont par exemple, qui a annoncé des résultats meilleurs qu'attendus sur la Chine par exemple, on a vu que ça avait un effet bénéfique. Et on voit que la Chine, qui essaie de se sortir d'une phase d'atonie économique depuis 3 ans, multiplie les mesures de soutien, et à un moment donné, ça va commencer à payer sur la demande intérieure chinoise, et ça, nos marchés à nous, les actions européennes et actions françaises notamment, sont pas mal sensibles à ce côté Chine. Donc je pense que la Chine n'est pas sortie du bois complètement, il faut encore du temps, mais ça c'est le premier aspect à surveiller. Le deuxième aspect, dont on le disait, c'est la faible cherté des actions européennes. Certains indices sont plus chers que d'autres, le DAX un peu plus cher par exemple, mais il y a plein d'indices du sud de l'Europe, le MIB italien, les actions italiennes sont assez peu chères, avec des bons rendements en face, et ce côté baisse des taux, il faut bien voir que même pour les investisseurs étrangers par exemple, hein, des gros gérants de fonds américains qui sont très largement pondérés sur les actions américaines depuis des années, à un moment donné ils cherchent l'opportunité, et quand ils ont des dollars qui valent très cher, parce que le dollar s'est beaucoup renforcé ces derniers temps, avec cette même quantité de dollars, ils peuvent acheter beaucoup d'actifs européens qui ne sont pas encore trop chers, donc il y a un effet de change qui peut être positif, il y a un effet de prix qui est positif, il y a un effet de diversification et de rotation qui peut être positif, sans oublier, c'est le dernier point, l'intérêt aussi des Français qui s'accroît pour l'épargne financière notamment, en vue de la retraite. Le sujet des retraites, on est en plein dedans maintenant, sur le poids des retraites, le coût que ça a pour le budget français, et très très probablement, on va être dans les années qui viennent, vers un accroissement de la volonté des Français de capitaliser un peu plus pour leur retraite.
C'est vrai que, y compris nos politiques, quand ils pointent du doigt, oui, regardez comment ils sont gavés de dividendes. Bon, si nos fonds de pension existaient et si nos futurs retraités avaient un petit peu de dividendes, ça augmenterait, mettrait du beurre dans les épinards, comme on dit en étant un petit peu cavalier. N'empêche que s'il faut prendre du risque, s'il faut regarder un peu les actifs financiers, etc., il y a la question de savoir comment je le fais. Est-ce que je le fais en direct, tout seul comme un grand, j'ai sélectionné mes titres, ou est-ce qu'on fait confiance à des gérants, ou est-ce qu'on fait confiance à des ETF? Vous voyez les choses comment qu'est-ce que vous dites à vos clients, par exemple, par rapport à cette gestion, on va dire, passive que constituent les ETF? C'est un bon outil? C'est pas un bon outil? Vous leur recommandez d'utiliser, Amélie, ces outils
en partie,
ETF?
Oui, en partie. Après, aujourd'hui, on pense que la gestion active va permettre de générer plus de performance par rapport à ce qu'expliquait Alexandre, notamment sur les marchés européens, où aujourd'hui, il y a un potentiel de croissance. Donc, c'est le stock picking qui le permettra. Mais avoir une partie de son allocation avec des ETF pour minorer les frais de gestion et justement aller booster la performance, ça a du sens aussi. Donc, on n'est pas dogmatique. Après, voilà, si on est là pour conseiller nos clients, c'est aussi pour leur apporter une valeur ajoutée par rapport à un indice. Donc les deux ne s'opposent pas forcément. On peut très bien avoir les deux en portefeuille.
C'est vrai que les ETF, c'est un succès dingue.
C'est un raz-de-marée, parce qu'effectivement, vous répliquez la performance d'un indice pour des coûts de gestion interne à l'ETF qui sont de 0,15, 0,20.
Des ETF actifs, parce qu'on rappelle, l'ETF, c'est un outil qui suit un indice ou une valeur ou un actif financier de façon un peu automatique. Oui. Et du coup, effectivement, comme il n'y a pas de gérant, il y a moins de frais, etc. Et puis surtout, c'est coté en continu. Donc, il n'y a pas une valeur liquidative comme un fonds qui est fixé un peu aléatoirement. Enfin, pas aléatoirement.
On n'est même pas obligé sur des ETF actifs. C'est-à-dire qu'on prend des ETF sectoriels. Par exemple, là, on parle des taux qui pourraient encore baisser dans les trimestres qui arrivent au niveau de la BCE. Il y a des secteurs qui ont beaucoup baissé en bourse. Par exemple, les foncières cotées qui ont perdu 50% quand les banques centrales ont monté les taux. Voilà, quelqu'un qui se dit, je vais faire un pari sur 2-3. Enfin, pas un pari, c'est pas le mot. Je vais investir sur un secteur qui a beaucoup baissé en bourse et qui peut bénéficier d'un repli des taux et d'un plus de l'inflation, c'est typiquement les foncières cotées. Donc les ETF par exemple qui travaillent le secteur, le Stoxx 600 Europe, donc un indice très très diversifié en termes de foncières. Il y en a des françaises, des allemandes, des italiennes, et ça permet de suivre comme ça un secteur totalement, de manière totalement précise. Et là, c'est pas le gérant de l'ETF qui décide, j'achète, je vends ou autre, qui arbitre. Vous suivez un panier de valeurs qui est le panier des Stoxx 600, et vous avez comme ça tous les secteurs européens, Stoxx 600 auto, Stoxx 600 santé, Stoxx 600 banque. Et ça, c'est très facile pour un épargnant aujourd'hui d'aller d'acquérir ces ETF là et de jouer des secteurs comme ça de manière inactive, parce que c'est pas à lui de choisir la valeur qu'il mettra dans l'ETF. Il va être exposé à tout le secteur européen avec les actions suivies par l'ETF.
Et quand il nous reste deux petites minutes, on est un peu pris par le temps, donc peut-être quelques questions plus pratico-pratiques pour la fin de l'année.
Oui, notamment sur les enveloppes, hein, où est-ce qu'on stocke tous ces placements, tous ces actifs dont on parle. Les Français connaissent les principales, assurance vie, PER, PEA. Est-ce qu'il y a des changements à attendre cette année sur ces enveloppes, ou au contraire, est-ce qu'il y a aussi certaines à privilégier peut-être? Ça dépend du profil des épargnants, j'imagine aussi.
Oui, et puis après, c'est des enveloppes qui sont assez complémentaires parce qu'elles répondent pas forcément aux mêmes objectifs. Alors, c'est sûr que la plus complète, c'est l'assurance vie, parce que ça va permettre, voilà, de valoriser un capital, d'avoir une liquidité quasiment immédiate, hein. Sur certains contrats, en 72 heures, vous pouvez retirer de l'argent. Vous avez un choix de support assez important. Aujourd'hui, on a même des contrats d'assurance vie où il y a des titres vifs. Et puis, ça permet, voilà, d'être dans un cadre fiscal ultra optimisé, que ce soit pour les rachats ou la succession. Donc c'est vrai que c'est l'enveloppe qu'il faut impérativement, j'ai envie de dire, d'avoir dans son patrimoine. Mais après, le PER, ça permet de parler de la retraite, hein. On parlait de ce sujet-là il y a quelques instants. Il y a quand même un avantage fiscal à l'entrée qui est intéressant. Après, il faut avoir en tête que les sommes sont bloquées, sauf cas de déblocage anticipé. Mais hormis la résidence principale, c'est pas des cas très joyeux. Donc, vaut mieux partir du principe que ce sera immobilisé jusqu'à votre retraite. Donc, l'avantage, c'est que vous connaissez au moins votre horizon d'investissement. Donc, ça permet de prendre un peu plus de risques. Mais les sommes sont bloquées et il faut pas oublier qu'elles sont quand même fiscalisées à la sortie. On a tendance à l'oublier. Mais en tout cas, c'est quand même une enveloppe intéressante. Et puis, le PEA, pour ceux qui veulent, voilà, s'exposer au marché actions européen dans un cadre fiscal optimisé, effectivement, c'est intéressant. Donc, pas de changement de prévu du côté des enveloppes. Donc, il faut effectivement toujours les avoir dans son patrimoine.
Juste pour terminer, Alexandre, c'est à vous que reviendra le mot de la fin, du coup. Peut-être l'erreur qu'il ne faut pas faire cette année, selon vous.
Je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire que le marché est trop cher ou autre. Ou je pense que ceux qui veulent mettre du dynamique dans leur patrimoine, c'est toujours le moment d'y aller. Bien sûr, si votre horizon, c'est de dire je veux placer pour donner à mes enfants dans un ou deux ans, faites plutôt attention. Si par contre, c'est de vous dire vous avez 30 ans ou 40 ans est-ce que je dois prendre des actions parce qu'il y a des crises parfois, les marchés ont perdu 30 ou 40, regardez des graphiques de très long terme, notamment sur du CAC 40, dividendes inclus. Pensez bien au CAC dividendes inclus. Hein. Celui dont on parle dans les médias, c'est le hors dividende, c'est celui dont on parle le plus souvent, mais le dividende inclus, il ne fait que monter depuis des années. Il y a des crises, des creux, mais un indice CAC 40 dividende inclus sur le long terme, il ne fait que monter. Donc, toujours bien se dire que les actions, quand vous incluez les dividendes, c'est toujours un des placements les plus rentables à long terme.
Mais, ouais. Pardon, non, si je pouvais compléter ou pas, oui. Parce qu'il comme vous parliez des statistiques, il y a un chiffre qui est extrêmement intéressant et je pense qu'il peut aider vos auditeurs par rapport aux conseils, c'est surtout de pas paniquer et de rester investi, notamment sur les marchés actions. Parce que il y a une étude de fidélité qui est hyper intéressante, c'est pour ça que j'aimerais la partager avec vous si j'ai le temps. En fait, sur 10 ans, on a 8% de performance. Si on loupe les 10 meilleurs jours de bourse, on tombe à 2,40 de performance par an. Si on loupe les 40 meilleurs jours de bourse, on tombe à moins 6 de performance par an. Donc surtout, ne pas céder à la panique et de bien rester investi, puisque les marchés actions, c'est des temps longs.
Oui, et pour ce faire, n'hésitez pas à, entre guillemets, prendre un abonnement à la bourse. Hein. C'est-à-dire que vous décidez que vous investissez X par mois à la bourse, et quel que soit finalement le niveau du marché, vous achetez ces X que vous avez décidé d'acheter. Quand le marché est haut, vous en aurez moins. Quand le marché est bas, vous en aurez plus, et ça vous permet de lisser aussi votre point d'entrée. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce grand rendez-vous de l'épargne. Donc Alexandre Baradez pour IG, Amélie Ziegelmeier pour La Place. Et nous, Quentin, on continue et on répond à toutes les questions. Hein. On rappelle l'adresse à laquelle nos auditeurs et vos lecteurs peuvent nous écrire.
C'est questions@capital.fr, n'hésitez pas.
À tout de suite.
Vos questions, nos réponses.
Et on poursuit notre grand rendez-vous de l'épargne avec ce traditionnel, qui deviendra donc traditionnel, rendez-vous de questions-réponses. En fait, n'hésitez pas, toutes les questions que vous pouvez vous poser qui touchent de près ou de loin à votre patrimoine, à votre épargne, et bien vous les envoyez sur question@capital.fr. Et ben, chaque mois, on y répondra à l'aide de nos experts. Quentin, on a deux expertes aujourd'hui, parce que Amélie est restée avec nous, mais on accueille une nouvelle experte.
Oui, Amélie, on retrouve Amélie Zegelmeyer, directrice régionale gestion privée chez La Place. Rebonjour Amélie.
Rebonjour.
Et puis, nous accueillons Clarisse Josse, bonjour, notaire à Paris.
Voilà donc pour les présentations. On rentre dans le vif du sujet avec quelques questions que nous ont envoyées quelques auditeurs, puisque ça fait quelques semaines qu'on a fait cet appel à questions. Et c'est Mireille qui, en 2019, Clarisse, a fait une donation à sa fille. Et depuis, bah, figurez-vous qu'elle s'est brouillée avec sa fille pour une bête histoire de choix d'études, comme quoi, à quoi ça tient. Et ça doit quand même être suffisant, parce que Mireille voudrait annuler la donation de 2019. Est-ce que c'est possible, comme ça, de revenir finalement sur de l'argent ou sur quelque chose qu'on a donné?
Alors, j'ai envie de dire, heureusement, c'est pas si simple que ça. Le principe, c'est qu'on peut pas révoquer une donation. C'est toujours un petit peu l'adage, donner ses données et reprendre ses volets. Ça s'applique notamment lorsqu'on fait une donation chez son notaire. Il y a des cas exceptionnels de révocation de l'acte de donation, en cas d'ingratitude, de survenance d'enfants, de violence exercée contre les parents. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Dans un absolu, Mireille pourrait essayer de négocier avec sa fille pour mettre en place une révocation amiable de la donation. Je conseille pas de le faire, puisque elle pourra pas obtenir remboursement des frais de la première donation, et puis ça va régénérer un nouvel impôt. Après, la question que j'aimerais poser à Mireille, c'est pourquoi est-ce qu'elle souhaiterait annuler la donation? Quel est l'objectif sous-entendu? Est-ce qu'elle a peur que sa fille la contraigne à un moment donné dans la gestion des biens? Et là, dans ces cas-là, moi, je l'invite à revoir avec son notaire, à refaire une lecture de l'acte de donation, puisque la donation, elle prévoit des garde-fous. La fille ne peut pas tout faire. Si on parle d'une donation d'un bien immobilier transmis en nue propriété, Mireille ne peut pas être mise dehors. Elle a la jouissance du bien, elle a l'usage des biens, elle perçoit les revenus. Sa fille ne peut pas vendre le bien sans l'autorisation de sa mère. En revanche, c'est vrai que malheureusement, la donation étant actée, elle doit accepter le fait que les biens ont été transmis à sa fille et que, oui, bah, il y a des règles du jeu qui devront être respectées avec sa fille. Si par exemple, elle souhaite vendre le bien immobilier avec sa fille, bah, il faudra l'autorisation de sa fille. C'est là où je l'invite, pourquoi pas, à essayer de réouvrir une discussion avec elle. Et on peut aussi imaginer passer par une médiation à un moment donné s'il y avait des difficultés. Là aussi, les notaires peuvent l'accompagner.
Et dans les cas, entre guillemets, les plus graves, là, quand il y a une raison de ça se pratique, c'est-à-dire qu'il faut prendre contact avec le notaire, et c'est aussi simple que ça, ou là, pour le coup, il y a des histoires de justice, de...
Alors, j'ai eu la chance de ne jamais constater une exécution pour ingratitude ou violence. C'est pas le notaire qui pourrait constater la nullité, ça passe évidemment en justice, et dans ces cas-là, il faut une action judiciaire, et c'est le juge qui constaterait la révocation de la donation pour ingratitude. Par exemple.
Voilà Mireille pour votre réponse. Quentin.
Pour Amélie, alors une question encore un peu autour d'un conflit familial, une question de Colette, je vous la lis. J'ai souscrit une assurance vie pour mes petits-enfants que je ne connais pas car leur mère s'y oppose. Je leur ai donc ouvert une assurance vie pour y placer l'argent des cadeaux que j'aurais voulu leur faire. Mais si je décède avant leurs 18 ans, ce sont, je crois, les parents qui vont gérer cette assurance vie. Mes petits-enfants ne sauront peut-être jamais l'existence de ce projet et les parents pourraient se servir de l'argent pour eux-mêmes. Existe-t-il une solution ?
Alors, de ce que je comprends, en fait, elle a ouvert des contrats, elle, à son nom, mais c'est les enfants, enfin les petits-enfants, pardon, qui sont bénéficiaires, c'est bien ça ?
Je pense, oui.
Comme elle ne les connaît pas, ça me paraît être cette option. Donc, le premier conseil que je peux donner à votre auditrice Colette, ce serait déjà d'informer le notaire de l'existence de ce contrat d'assurance-vie et prévoir qu'elle a choisi de gratifier ses petits-enfants. Puisque même si, au moment du décès, il peut consulter le fichier FICOVI, hein, qui recense tous les contrats d'assurance vie et de capitalisation de plus de 7 500 euros. Au moins, comme ça, ça permet d'anticiper la transmission. Mais après, pour la gestion, ce qu'elle peut faire, c'est nommer un tiers administrateur dans la clause bénéficiaire. Comme ça, si elle décède avant les 18 ans de ses petits-enfants, c'est cette personne qui sera chargée de gérer les capitaux pour le compte des petits-enfants. Ça peut être aussi une société en gestion de patrimoine, mais attention au risque de conflit d'intérêts. Donc, il vaut mieux qu'elle nomme quelqu'un de sa famille ou un de ses amis. Et attention, il y a quand même un point de vigilance sur le sujet, puisque l'article 384 du Code civil prévoit en fait que les biens peuvent être administrés par un tiers, donnés à un mineur, ou ceux reçus par legs. Or, l'assurance vie ne semble pas faire partie de cet article du Code civil. Donc aujourd'hui, c'est contesté par une partie de la doctrine de pouvoir nommer un tiers administrateur dans une clause bénéficiaire. Ça n'a pas été tranché en jurisprudence. Donc si toutefois elle veut prendre aucun risque, dans ce cas-là, elle peut tout simplement faire un testament, léguer des capitaux à ses petits-enfants avec le tiers administrateur. Par contre, là, elle n'aura pas les avantages fiscaux de l'assurance vie qu'on connaît. Elle aura seulement l'abattement de 1594. Qui est l'abattement entre grands-parents et petits-enfants en cas de succession. Et après, le surplus sera taxé selon le barème en ligne directe, donc des 16 000 euros, à peu près 20%, pour avoir des repères chiffrés.
Je ne sais pas si c'est les fêtes qui se sont mal passées. Visiblement, il y a des conflits de famille qui traînent. Allez, on y reste d'ailleurs un petit peu, parce que Clarisse, c'est Edmond qui voudrait, lui, léguer à son petit-fils mineur de 15 ans un portefeuille de titres, parce que, visiblement, Edmond dit que le petit est très intéressé par la matière, et il remarque que c'est pas le cas des parents, et il ne veut donc pas que ce soit les parents qui gèrent le portefeuille en question si le petit-fils décédait avant, si le grand-père, pardon, décédait avant les 18 ans du petit-fils. Comment est-ce qu'il peut faire ? On peut borner comme ça
Oui, bah c'est comme l'expliquait Amélie. Effectivement, on peut borner par la désignation d'un tiers administrateur. La première des choses, c'est que Edmond va rédiger un testament, puisque pour léguer un portefeuille titre à son petit enfant, il va falloir le transmettre par la rédaction d'un testament. Et au sein du testament, il va pouvoir désigner un tiers administrateur. D'accord. La désignation du tiers administrateur se fait au sein du testament. Il va choisir la personne de son choix qui sera ce tiers administrateur. Ça peut être un proche, un ami de la famille, un oncle, de peu importe, j'ai envie de dire. Au sein du testament, il faudra aussi qu'il fasse attention à bien détailler les pouvoirs qui seront conférés à ce tiers administrateur. Puisque la loi, l'article 384, comme le rappelait Amélie, prévoit que le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par le testament ou la donation. On peut aussi le faire dans le cadre d'une donation. Et c'est important de prévoir, par exemple, il aura les pouvoirs de gestion du portefeuille titre, il pourra réaliser les arbitrages, mais prévoir aussi que si les titres étaient vendus, il pourrait les réemployer sur d'autres actifs. Et par la désignation du tiers administrateur, on va donc soustraire la gestion des parents. Et point également important, là il a 15 ans, donc on arrive aux 16 ans. Pourquoi cet âge-là ? C'est parce que jusqu'à 16 ans, les parents sont usufruitiers des biens de leurs enfants. Ils ont la jouissance légale des biens de leurs enfants. Donc si le portefeuille titre est géré par une tierce personne et génère des revenus, ces revenus vont automatiquement revenir aux parents, ce qui n'est pas forcément le souhait du testateur ou du donateur. D'accord. Donc il faut aussi penser au sein du testament à priver les parents de la jouissance légale des biens pour que les revenus du patrimoine reviennent aux mineurs. Ça, c'est jusqu'aux 16 ans accomplis.
D'accord. Et à partir de 16 ans
Ça revient automatiquement aux mineurs.
Bon, ben voilà, Edmond, il y a un peu d'ambiance. Hein.
Et on poursuit sur une question de transmission également pour Amélie avec François. Bonjour, j'ai un PEL avec 100 000 euros rémunéré à 6%, très bon taux des anciens PEL. Je vais avoir 70 ans dans un an. Je suis marié sans enfant, mais avec mon épouse, nous avons plusieurs neveux. Vaut-il mieux fermer le PEL et placer cet argent en assurance vie avant mes 70 ans, avec une clause bénéficiaire au profit de nos neveux, et se priver donc du bon taux de rémunération du PEL, ou laisser cet argent sur le PEL pour bénéficier du taux, et par contre laisser les neveux payer 55% de droits de succession? Petit dilemme en termes de
qui va gagner.
Qui va gagner, l'assurance vie ou le PEL? Déjà, on peut rappeler à votre auditeur que s'il souhaite léguer son PEL à ses neveux et à ceux de son épouse, il faut le faire par voie testamentaire, puisque là, comme il est marié, c'est sa femme sinon qui hérite du PEL. Et on peut rappeler aussi, puisqu'on parle des 55% de droits de succession, mais il y a quand même un abattement entre oncle et neveu de 7 967 euros, donc à peu près 8 000 euros. Donc selon le nombre de neveux qu'il a, peut-être finalement que le PEL ne serait pas fiscalisé. Après, les 6%, il faut se souvenir qu'il y a la flat tax qui s'applique chaque année, donc de 30%. Donc réellement, on est plutôt à 4,20 de rémunération. Donc après, ce qu'il faut comparer, c'est ce placement, on va dire, qui rapporte du 4,20 à une assurance vie, par exemple un fonds euro. Donc admettons, retenons 2%. où il faudra enlever les prélèvements sociaux, sachant que c'est une hypothèse plutôt prudente, en fait, ce qui va faire le choix entre le PEL et l'assurance vie, c'est la durée du placement. Oui. Sauf que la durée du placement, elle dépend de quoi ? Elle dépend du décès de votre auditeur. Donc, c'est là où tout va dépendre, en fait, de combien de temps il va conserver cet investissement. Mais a priori, compte tenu des montants, 100 000 euros, il vaut mieux qu'il se dirige plutôt clairement vers l'assurance vie, à moins qu'il ait plus d'une quinzaine de neveux. Mais,
surtout qu'en plus, avec l'assurance vie, vous partez sur une hypothèse hyper prudente. Il pourrait pimenter avec des UC.
Exactement. Aujourd'hui, même avec une gestion prudente sur des SICAV monétaires, on peut aller chercher du 3, du 3,50.
On
parle d'un fonds euro à 2%, mais aujourd'hui, la moyenne sur les 25 dernières années, elle est plutôt autour de 3. Donc effectivement. Et puis en plus, sur l'assurance vie, on n'a pas le droit de partage des 2,5%. Qu'on a sur le PEL. Et en plus, votre auditeur parle de 6%, mais il y a quand même une probabilité assez importante que les 6% incluent la prime d'État. Or, vu le montant de son PEL et vu la date d'ouverture, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, il soit plutôt à un taux hors prime d'État, puisqu'il a dû atteindre le plafond de la prime d'État qui est de 1525 euros. Donc, et il doit plutôt être à une rémunération autour de 4,62 et donc 3,23 net de flat tax. À vérifier après avec lui. Mais je pense, à mon avis, sans hésiter, qu'il vaut mieux privilégier plutôt l'assurance vie.
D'accord.
Voilà donc pour ces questions d'arbitrage au sein des différentes enveloppes. Clarisse, Valérie, à la suite du décès de son père, avec ses deux frères, ils ont décidé de vendre la maison des parents. Elle précise que sa maman détient la moitié du bien en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. Et elle se demande du coup comment l'argent va être réparti entre les différentes parties prenantes finalement.
C'est une bonne question et c'est une bonne question qu'il faut se poser avant la vente du bien immobilier. Pourquoi ? Parce que si rien n'a été anticipé, le jour de la vente, le notaire va donc répartir le prix de vente entre les différents propriétaires. Ici, la mère aura 50% du prix puisqu'elle est propriétaire de 50% du bien en pleine propriété. Et sur la partie détenue en démembrement, c'est-à-dire usufruit pour la mère et nue propriété pour les enfants, le prix de vente sera réparti de nouveau entre la mère et les enfants. La quote-part de la mère, qui est usufruitière, sera déterminée en fonction de son âge au jour de la vente. Donc, dans un cas où elle a peut-être plus de 81 et moins de 91, la quote-part serait de 20%. Donc, elle aurait 20% de 50% du prix. Le reste revenant à ses enfants, trois enfants, cela serait réparti en trois. C'est ce qu'on appelle la répartition du prix. En revanche, si ce point est anticipé avant la vente avec leur notaire, il faut savoir que s'ils sont tous les trois d'accord, ils peuvent changer cette règle du jeu et décider de ne pas répartir le prix de vente, mais peut-être de remployer le prix de vente dans d'autres actifs qui seront eux-mêmes démembrés. Par exemple, de placer le prix de vente sur un contrat de capitalisation ou sur trois contrats de capitalisation démembrés, sur un contrat d'assurance vie démembré, ou racheter un bien qui lui-même serait détenu en usufruit par la maman de, je ne sais plus son prénom, Valérie et la nue propriété pour les enfants. Ça, c'est possible, à condition de l'avoir anticipé, soit en ayant rédiger une convention avant la vente et de l'avoir fait enregistrer auprès de l'administration fiscale, soit simplement de l'inclure dans l'acte de vente. D'accord. Et puis, si la maman de Valérie est en difficulté financière et qu'elle a besoin de récupérer l'intégralité du prix pour des raisons économiques, assurer son train de vie, rembourser une dette, payer ses vieux jours, elle pourrait aussi, avec l'accord de ses enfants, récupérer l'intégralité du prix de vente. C'est un terme juridique qui est complexe, qui s'appelle le quasi-usufruit. Et après, pour éviter que les enfants repayent deux fois ou qu'ils permettent aussi aux enfants de récupérer cette somme d'argent-là, il y a des mécanismes qui existent au moment de la succession. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'après, c'est un peu de mécanique juridique.
Mais ce qu'il faut retenir... C'est le terme de quasi-usufruit qu'il faut avoir en tête pour...
Oui, ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est qu'il y a une flexibilité et qu'on n'est pas restreint par la répartition du prix. Mais pour cela, il faut absolument l'anticiper avant la signature de l'acte de vente.
Donc là, ce n'est pas encore vendu, donc ils peuvent...
Bien sûr.
Il est encore bien temps d'y réfléchir.
Oui, même si la promesse a été signée, ce n'est pas grave. Il faut que ça soit convenu avant la signature de l'acte définitif de vente.
Quentin.
Oui, et puis une dernière question également un peu longue pour Amélie, donc je vais la lire in extenso parce qu'elle est un peu complexe. Question de Francis, ma mère a ouvert deux assurances vie après ses 70 ans, une de 50 000 euros et une autre suite à un héritage de 1 million d'euros. Je suis le bénéficiaire de ces deux assurances vie en tant que fils aîné. Et c'est la question par rapport au notaire qui se pose. Le notaire me dit qu'il faudra l'inclure dans l'acte de succession et que c'est lui qui s'occupera des formalités auprès des impôts. où la banque, au contraire, m'a indiqué que je ne devrais pas inclure ces deux assurances-vie dans la succession, car le notaire me prendrait des frais supplémentaires. La banque m'établira, selon elle, un document fiscal que je déposerai moi-même au centre des impôts pour m'acquitter des taxes. Qui croire entre le notaire et la banque ?
Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que tous les versements sur l'assurance vie après 70 ans, c'est le cas de la maman de Francis, sont taxés, ils sont intégrés à l'actif successoral et ils sont taxés en fonction du lien de parenté. Donc là, parent-enfant. Et il existe un abattement de 30 500 qui va s'appliquer sur tous les versements après 70 ans et tous bénéficiaires confondus. Donc pour savoir si cet abattement de 30 500, il doit être partagé, parce que là, Francis nous parle de deux contrats d'assurance vie, mais peut-être que sa maman en avait ouvert d'autres. Donc pour savoir s'il y a d'autres bénéficiaires et que cet abattement doit être partagé, et ne serait-ce que connaître le taux de taxation des capitaux, il faut avoir une visibilité globale sur le patrimoine. Or, la seule personne qui aura cette vue d'ensemble, c'est le notaire. Donc moi, j'encourage vivement Francis à en parler à son notaire. En plus, tout à l'heure, on parlait du fichier FICOVI qui recense les contrats d'assurance-vie. Donc de toute façon, le notaire peut avoir connaissance de ces deux contrats d'assurance-vie. Moi, ça me paraît dangereux.
Qui peut mettre les pieds dans le plat
de pas lui en parler.
Son client, dis donc, tu m'as pas tout dit.
Ben voilà. Et puis c'est pas pour le faible coût des émoluments du notaire sur ces contrats d'assurance vie par rapport aux risques fiscaux qu'il prendrait si jamais il s'amusait à faire une déclaration tout seul, puisque en cas d'erreur, voilà, c'est des pénalités importantes. Donc non, il vaut mieux passer par son notaire.
Il faut avoir confiance dans son notaire, non, Clarisse ?
Bah oui.
Vous qu'allez dire le contraire. Bon, allez, il nous reste quelques petites minutes et on peut peut-être répondre à cette dernière question, Clarisse. C'est Catherine qui a donné un appartement à sa fille qui a 3 enfants. Et si elle décède avant Catherine, donc, quelqu'un a dit à Catherine qu'il était possible de récupérer l'appartement. C'est vrai, là, pour le coup ?
Alors, c'est si sa fille décède avant elle, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce qu'elle peut récupérer, entre guillemets, annuler la donation pour pas que ça passe aux petits-enfants ?
Ouais, je pense.
Ouais. Alors, oui, mais tout va dépendre de comment la donation a été rédigée.
D'accord.
Dans un absolu, c'est possible. C'est ce qu'on appelle le droit de retour. Droit de retour conventionnel. Honnêtement, dans tous les actes de donation, le notaire prévoit toujours un droit de retour conventionnel. En revanche, il faut bien qu'elle vérifie en amont, puisque généralement, on prévoit que si le donataire, donc la fille, décède avant le donateur, donc avant la personne qui a transmis, généralement, on laisse les petits-enfants recevoir les biens en lieu et place de ses enfants. C'est-à-dire, lorsqu'on donne un bien, on se dit, si mon enfant malheureusement décède avant moi, j'aimerais bien que ce bien aille à ses propres enfants. Et c'est en l'absence d'enfants, parce que généralement, on veut pas que les pièces rapportées puisse pouvoir récupérer les biens, on se conserve le droit de pouvoir les récupérer et les ramener dans son patrimoine. Donc, ce qui est probable, c'est que le notaire ait prévu un droit de retour conventionnel, mais en présence de descendants. Donc, il faut simplement qu'elle vérifie ce qui est prévu.
Donc, il faut relire son acte.
Il faut relire. Maintenant, il est tout à fait possible de pouvoir modifier cette clause a posteriori dans l'acte. Il faudrait simplement que tout le monde, tous les parties à l'acte, le donateur et les donataires, soient d'accord pour modifier cette clause, le cas échéant.
Bon, le mieux, c'est quoi ? On relit son acte ou on pose la question à son notaire ?
Oui, on appelle son notaire, on fait un petit mail à son notaire, on lui demande de revérifier ce point-là pour être rassuré.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour ces réponses très précises. On vous rappelle, question@capital.fr. Et chaque mois, on vous répond. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir participé au Grand Rendez-vous de l'Épargne. Amélie Ziegelmeyer, directrice régionale gestion privée de La Place. Et Clarisse Josse, notaire, donc à Paris. On marque une toute petite pause et on va lire le journal.
La une de Capital.
Et oui, on va lire le journal, Quentin. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les kiosques pour celles et ceux qui vont se jeter, j'imagine, sur le prochain numéro de Capital ?
Oui, nouveau numéro de Capital donc, qui est sorti hier en kiosque donc, depuis le 30 janvier. Donc on va voir la une à l'écran, on a un grand dossier de 20 pages sur les arnaques. Arnaques aux épargnants, aux entreprises, même à l'État. Donc c'est un sujet brûlant. L'AMF, notamment sur les placements, on rappelait l'année dernière qu'il y avait une recrudescence des arnaques pour les épargnants. Et puis on aura aussi dedans un palmarès des 500 meilleurs employeurs. Voilà.
Et à découvrir donc en kiosque depuis hier.
Depuis hier.
D'ores et déjà y courir.
Absolument. Et je précise aussi qu'on a encore en kiosque au mois de février notre numéro spécial placement 2025. Ça fera un bon complément à l'émission avec le passage en revue de tous les placements, assurance vie, PER, livret, CPI, avec tous nos conseils.
Et ben voilà, un peu de lecture qui ne fait pas de mal pour chacun et bien maîtriser les sujets d'épargne liés aussi à notre consommation et à la façon de gérer notre argent. Merci beaucoup, Quentin.
Merci, Cédric.
On se retrouve le mois prochain, bien évidemment, pour le grand rendez-vous de l'épargne en partenariat avec Capital. À très bientôt.
C'était le grand rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Quentin Balorant et Cédric Decoeur, à retrouver sur Radio Patrimoine, Capital et en podcast sur toutes les plateformes.